Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour, le gouvernement a approuvé le projet de budget de l'État pour l'année prochaine. Les autorités ukrainiennes critiquent le voyage d'une délégation tchèque en Crimée. Un premier bébé tchèque est né d'un utérus greffé. Le gouvernement a approuvé à l'unanimité lundi le projet de budget de l'État pour l'année prochaine qui table sur un déficit de 40 milliards de couronnes, 1,55 milliard d'euros. Ce même déficit est également prévu par le cabinet pour les années 2021 et 2022. La coalition gouvernementale, composée du mouvement ANO, du Premier ministre Andrei Babich et du Parti social-démocrate, entend attribuer des moyens financiers supplémentaires aux investissements, à la recherche scientifique, ainsi qu'à la hausse des pensions de retraite, des allocations familiales et des salaires, notamment dans le domaine de l'enseignement. Le président Miloš Zeman, qui a assisté au Conseil des ministres, a indiqué qu'il était prêt à signer le projet de loi des finances dans sa forme actuelle, après l'adoption de celui-ci par la Chambre des députés. L'ambassade d'Ukraine en République tchèque a appelé lundi sur son site internet les autorités de Prague à condamner la récente visite d'un groupe de Tchèques en Crimée où ils auraient négocié avec les représentants russes la possibilité de voyages touristiques dans la région. D'après l'ambassade ukrainienne, des activistes ruthéniens reçus récemment par le président tchèque Miloš Zeman ont fait partie de cette délégation, de même que l'ancien vice-président du parti communiste tchèque Josef Skála ou l'écrivaine Lenka Procházková. Dans sa réaction, le ministère tchèque des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'agissait d'un voyage privé effectué par un groupe de citoyens tchèques et non pas d'un voyage officiel des représentants du pays. La diplomatie tchèque a toutefois répété qu'elle ne recommandait pas aux citoyens d'effectuer des voyages touristiques en Crimée qui sont en contradiction avec les lois ukrainiennes. Pour rappel, Prague considère que le territoire de la Crimée annexé par la Russie en 2014 fait partie intégrante de l'Ukraine. L'hôpital de Prague Motol a annoncé ce mardi la naissance d'un premier enfant tchèque conçu à partir d'un utérus greffé. Le bébé, un garçon, est né le 29 août dernier par césarienne. Sa mère, âgée de 27 ans, a subi une greffe d'utérus en 2017 à partir d'une donneuse en état de mort encéphalique. La transplantation a été effectuée au centre pragois de médecine expérimentale qui a conduit une première greffe d'utérus en 2016. C'est la première fois en République tchèque qu'une transplantation d'utérus aboutit à une naissance, a confirmé la porte-parole de l'hôpital pragois de Motol. La première naissance mondiale après une greffe d'utérus provenant d'une donneuse décédée a eu lieu en décembre 2017 au Brésil. Des concerts, expositions ainsi qu'une marche commémorative et d'autres événements encore sont prévus pour la journée du 17 novembre qui marque le début de la révolution de velours. La programmation de ce festival de la liberté, organisé par plusieurs initiatives civiques à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du régime communiste, a été présentée ce mardi par le maire de Prague, Zdeněk Hřib. Les moments forts des commémorations auront lieu dans le quartier d'Albertov, rue Národní et place Venceslas, pardon, à Prague, qui sont les lieux principaux où se sont déroulées les manifestations. Un vidéomapping sera également organisé au centre-ville. Les participants au festival pourront faire appel à une application mobile qui leur indiquera tous les événements qui auront lieu dans la capitale. L'équipe de République tchèque de volleyball s'est inclinée contre la Pologne en 3-7 lundi lors de son troisième match au championnat d'Europe de Rotterdam. La République tchèque figure dans le groupe D et l'affrontera dès ce mercredi à Amsterdam, les Pays-Bas et le Monténégro avec pour objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale du championnat. Côté météo, le temps sera nuageux avec éclaircies mercredi, jour de la fête des Krzysztof. Les températures seront comprises entre 16 et 20 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Thomas Perrochot.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci à Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information et merci à vous d'être à l'écoute de Radio Prague International. Rencontre aujourd'hui avec Lenka Pokorna, la nouvelle ambassadrice tchèque au Mali. Nous retrouvons là aussi la blogueuse tchéco-vietnamienne Duong Nguyen Iraskova pour la suite d'une rencontre autour des enjeux d'une double culture chez les jeunes. Puis rendez-vous au château de Prague et plus particulièrement dans le jardin royal qui accueillait les amateurs de vin ce week-end. Bonne écoute de notre programme. Un nouveau chargé d'affaires tchèque vient de prendre ses fonctions dans la capitale du Mali. La réouverture d'une ambassade était déjà prévue dans la stratégie gouvernementale pour soutenir la stabilisation et le développement du Sahel dans la période 2018-2021, où l'ouverture de l'ambassade est explicitement mentionnée. Lenka Pokorna est l'ambassadrice de la République tchèque en Algérie et au Mali.
Comme la République tchèque ces derniers temps, elle se penche beaucoup sur le problème du Sahel. Vous savez peut-être que récemment, nous avons augmenté notre présence militaire au Mali. Donc maintenant, nous avons 118 soldats qui sont membres de la mission européenne. Donc c'est a priori la mission d'entraînement pour les forces maliennes. On essaye de les aider vraiment pour qu'eux-mêmes puissent se protéger contre toutes les formes d'agression. Parce que vous savez, le conflit au Mali ne se limite pas seulement à un conflit, disons, des islamistes, causé par les islamistes, mais aussi, par moments, ça devient très souvent un conflit interethnique. Donc la situation reste vraiment très très difficile à gérer. Donc comme nous avons déjà cette préoccupation, parce que notre idée c'est d'aider les gens sur place avant qu'ils deviennent réfugiés, migrants, etc. Donc la République tchèque a décidé d'ouvrir une ambassade, une représentation au Bamako. Cette ambassade a existé brièvement dans les années 60, mais puis tout a été fermé. Donc maintenant, nous nous apprêtons à réouvrir l'ambassade. Donc le collègue qui sera en tant que chargé d'affaires de cette mission, le temps de commencer, il va partir réouvrir, finalement, inaugurer notre antenne, disons, notre ambassade à Bamako.
Donc jusqu'ici, c'est vous qui avez le Mali sous votre responsabilité.
Exactement, et ça sera comme ça encore jusqu'au disons fin juin de l'année prochaine, parce que comme vous savez, Mali c'est pas un terrain extrêmement calme. Donc au bout d'une année de la mission, il faudra faire une évaluation et décider de la suite de cette ambassade.
Est-ce que vous êtes passé récemment à Bamako?
Non, j'ai pas encore eu le plaisir de présenter mes lettres de créance parce que la partie malienne n'a pas encore offert une date. Mais je dois dire que je connais la région relativement bien, relativement toujours, ça reste toujours très relatif, en Afrique, parce que j'étais chef de poste à Dakar. C'était aussi une réouverture d'une ambassade tchèque, parce qu'on s'est rendu compte qu'en Afrique, disons de l'Ouest, en Afrique francophone, si vous voulez bien, il n'y avait plus de représentation tchèque parce que ça a été fermé à cause des coûts budgétaires, etc., la guerre civile en Côte d'Ivoire, etc. Donc, ça a été une petite réouverture en 2013. Donc, maintenant, de Sénégal, on passe au Mali. Et je ne sais pas si quelque chose va suivre, pas dans les années à venir, certainement, mais quand même, notre présence a été beaucoup renforcée dans cette région.
C'était Lenka Pokorna au micro d'Alexis Rosenzweig pour Radio Prague International. Seconde partie de notre entretien avec Duong Nguyen Iraskova, jeune blogueuse très active sur Internet qui glosait en 2008 avec humour et lucidité sur les enfants bananes, la génération de jeunes Vietnamiens souvent nés en Tchéquie de parents installés de longue date, totalement bilingues, à l'aise à la fois dans les communautés mais éprouvant également des difficultés à appartenir à deux cultures très différentes. En 2018, elle a sorti un livre qui compile ses réflexions et raconte son parcours. On y apprend entre autres, avec la franchise qui la caractérise, qu'elle a vécu et surmonté un épisode dépressif important lié entre autres à cette double appartenance. Un phénomène pas si rare chez cette génération de jeunes Vietnamiens, comme elle l'a confié au micro d'Anna Kubishta.
Oui, je pense que c'est assez caractéristique. Je ne sais pas si je peux dire pour ceux qui sont bilingues, mais certains pour ceux qui sont vietnamiens tchèques. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages des gens qui ont lu mon livre. Et c'est assez souvent les tendances dépressives à cause de la pression pour les jeunes vietnamiens. C'est plutôt exceptionnel quand un Vietnamien qui a grandi en République tchèque, qui a pas des problèmes comme j'ai décrit dans mon livre.
C'est intéressant, ça j'aurais pas pensé par exemple.
Ouais, parce que c'est vraiment
il y a un déchirement et une pression à la fois.
Ouais.
Toi qui as été justement en France, où il y a une grande communauté vietnamienne pour le coup, Mais alors qui, à mon sens, doit être assez différent de la communauté tchèque parce qu'ils viennent pas déjà géographiquement de la même partie du Vietnam. Mm-hmm. Est-ce que tu as trouvé des similitudes ou peut-être quelles étaient les différences si tu as été en contact avec des gens de la communauté vietnamienne en France? Parce ouais. que toi, tu peux faire un peu le pont hein, finalement entre tout ça.
Oui, je suis totalement sur le pont de deux, trois cousures. Il y a une grande différence entre la communauté vietnamienne en République tchèque ou en France. En République tchèque, des Vietnamiens qui sont ici, ils sont venus après la guerre américaine qui a fini en 1975. Et ils sont venus comme par exemple mon papa. C'est vraiment mon papa, c'est la première génération. Il était un soldat, il était à la guerre, et comme un vétéran, il pouvait aller en Tchécoslovaquie, parce qu'à l'époque, il y avait des contrats communistes. Ce sont les Vietnamiens du Nord, le Nord communiste qui ont gagné la guerre. Et, tandis qu'en France, l'histoire de la communauté vietnamienne est beaucoup plus longue. Il y a déjà la troisième, quatrième génération parce qu'ils sont venus après la colonisation française qui a fini en 1954.
Donc après la guerre d'Indochine.
C'est ça. Après la conférence de Genève, ils sont venus en France comme les immigrés. Et la différence la plus importante, que c'est en République tchèque, ce sont les Vietnamiens communistes qui sont venus à cause de... Pour la raison économique. Pour gagner de l'argent et peut-être pour rentrer au Vietnam, idéologiquement, ils sont toujours vietnamiens du Nord. Tandis que les immigrés vietnamiens en France, ils sont partis comme les immigrés qui ne voulaient pas être communistes.
Et qui savaient qu'ils reviendraient sans doute jamais dans leur pays.
Ouais. Et ils ont vraiment accepté, ils sont venus en France pour la démocratie, pour les valeurs, européennes ou françaises. En France, j'ai connu pas mal de familles dans la famille vietnamienne qui sont émigrées en France, ils n'ont pas parlé vietnamien.
La langue s'est perdue en fait.
Ouais, c'est perdu, la culture est perdue parce qu'ils ont quitté le Vietnam, mais pas juste physiquement, mais vraiment idéologiquement et mentalement. Les enfants, ils ont grandi dans vraiment un environnement européen.
Ouais, en France, il y a une vraie coupure. Alors qu'en République tchèque, finalement, on pourrait dire que peut-être la génération de tes parents, en fait, a peut-être l'intention de revenir un jour au pays et s'installer peut-être pour la retraite, entre guillemets, ou finir leur jour au pays, en fait.
Ouais. Ou au moins, c'était le premier but. Mes parents, par exemple, ils sont contents de ça.
Donc finalement, la coupure, elle se fait différemment. Est-ce que finalement, j'avais envie de te demander aussi, est-ce qu'il y a un clash de culture générationnel, par exemple, peut-être pas, je sais pas, dans ta famille, mais peut-être dans ce que tu peux observer chez les gens de ta génération, entre leurs parents qui sont peut-être plus ancrés, comme tu disais encore, idéologiquement. Pas forcément même idéologiquement, mais simplement culturellement dans la culture vietnamienne et dans leurs souvenirs, même s'ils sont installés ici, et ces jeunes qui parlent, qui sont bilingues, qui parlent tchèque, qui parlent vietnamien.
Absolument, il y a de clash. Il y a peut-être des crises entre générations, parce qu'en fait, nos parents, je pense que eux, c'est plus difficile pour eux, parce qu'ils parlent pas mon papa, par exemple, parce que lui, il était traducteur, mais la plupart des parents... La plupart de la génération qui sont venus comme les premières ne parlent pas trop tchèque ou ils travaillent dans un domaine dans les épiceries ou des petits magasins où ils parlent que la langue pour juste travailler mais pas pour avoir les liens sociaux avec les tchèques. Alors ils sont pas trop intégrés. Et après ils ont des enfants qui par exemple ils parlent pas vietnamien ou très mal. Alors, ils ne comprennent pas trop les tchèques, ils ne comprennent pas trop leurs enfants. Et c'est pour ça, peut-être, pourquoi ils sont un peu isolés et ils maintiennent la culture vietnamienne en République tchèque. Et après, il y a la génération comme moi, sur le pont, qui comprend toutes les deux cultures. Je pense que pour nous, c'est le plus facile.
On voit dans ton cas que c'est pas si facile que ça, mais en effet, oui, on comprend pourquoi c'est facile.
C'est facile quand on parle de la communauté vietnamienne. Mais après, il y a la génération, par exemple, de ma petite sœur, où beaucoup de jeunes vietnamiennes, ils parlent pas vietnamien, ils comprennent pas leurs enfants. C'est déjà difficile pour les Tchèques de comprendre leurs enfants, même si c'est en plus il y a le problème linguistique, c'est encore plus dur. Mon amie, elle a fait une étude sur les clashs de génération sur ce sujet-là, et ses résultats, c'est que ils se disputent tout le temps parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que de la cause de la langue.
Est-ce que le fait d'aller en France, qui est une société beaucoup plus multiculturelle, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement, cette expérience en France, par exemple, par rapport à ton expérience en République tchèque ?
Bon, je pense qu'on va y venir dans une, deux générations. C'est difficile pour la majorité tchèque, mais je voulais dire juste que l'intégration des Vietnamiens dans une société tchèque, ça va améliorer. Parce que la prochaine génération, ils vont être plus intégrés dans la société. Alors, en France, on voit que les Vietnamiens sont... En fait, je ne me suis pas sentie comme un étrangère en tant que Vietnamienne en France. Parce que les Vietnamiens en France, ils étaient partout. Ils étaient ils ont travaillé dans les bureaux, ils ont travaillé dans les...
Oui, enfin, en France, ce que tu veux dire, tu retrouves en fait des gens de la communauté vietnamienne en fait dans tous les métiers, quoi.
C'est ça, dans tous les métiers.
Dans toutes les professions, tu peux avoir des gens, des fonctionnaires, mais tu peux avoir n'importe quel métier, en fait.
Et ils n'étaient pas...
Ils n'étaient pas cantonnés à l'épicerie comme en Tchéquie, quoi.
Exactement. Alors, il n'y avait pas de préjugés que les Vietnamiens sont ceux qui sont dans les épiceries ou... Et en plus, je pense qu'en France, on était comparés aux Arabes. Et c'était toujours que les Chinois, les Vietnamiens ou les Asiatiques sont plus calmes, sont plus intégrés ou ce sont les bons élèves. Tandis que ici en République Tchèque, en 2008, c'était encore pire. Mais toujours maintenant, je vois que les Vietnamiens sont les vendeurs d'épicerie et c'est assez, c'est pas encore. Courant que tu vois les Vietnamiens dans les bureaux comme graphistes ou copywriters.
Et a fortiori, à Caen, un ministre d'origine vietnamienne, il n'y a déjà pas beaucoup de femmes, alors toutes les minorités ont du mal, enfin, qu'elles soient minorité sexuelle ou nationale, arrivent à des postes ou placés. Peut-être pour terminer, qu'est-ce que cette expérience d'écriture t'a apporté à toi personnellement et est-ce que tu vas renouveler l'expérience à l'avenir ? Je parle d'un livre, là, pour le coup, en particulier.
Bon, c'était une bonne expérience. C'était une année très émotionnelle. C'était une thérapie avec mon mari. C'était comme aller au thérapeute de couple. Mais sans payer. Il y avait beaucoup de moments que je voulais quitter. Alors pour moi, je me sens comme une gagnante après l'édition du livre. Mais je pense qu'il y avait des auteurs qui devraient finir avec un livre. Et je pense que c'est mon cas. Parce qu'en fait, je vois plus de sujets qui puissent être aussi intéressants pour un livre.
Le week-end écoulé, des milliers de Pragois se sont rendus au jardin royal du château de Prague qui accueillait la fête des vendanges. L'occasion de vous faire découvrir le jardin et son architecture, de revenir sur la tradition de la culture de la vigne au château et de vous inviter aux manifestations culturelles proposées pendant la saison d'automne. Rediffusion aujourd'hui d'un reportage signé Yaroslava Gisubelova, diffusé en 2013. «
Le plus grand des jardins du château de Prague, le jardin royal Královská zahrada, s'étend sur 3,6 hectares de terre du côté nord du château dont il est séparé par le fossé des serfs. Fondé en 1534, il occupe l'emplacement d'anciennes vignes médiévales. À l'origine, il est un jardin d'acclimatation de plantes exotiques. L'architecte Giovanni Spati, qui l'a créé, s'est inspiré des jardins renaissance italiens, comme le raconte František Karlec, historien et responsable du tourisme au château.
Le jardin royal fait partie des plus beaux et des plus anciens jardins au château de Prague. Son fondateur, l'empereur Ferdinand Ier, a veillé à ce qu'on ait de quoi admirer non seulement une riche végétation, mais aussi l'architecture et les constructions qui s'y trouvent. La maison de jet de pomme de style Renaissance, édifiée en 1569 par l'architecte Boniface Wohlmuth, est décoré de splendides graphiques, le belvédère de la reine Anne, aujourd'hui complètement restauré, ainsi que la fontaine chantante.
Les gouttes d'eau en tombant dans les vagues de bronze font résonner la fontaine chantante, dessinée en 1568 par Francesco Terzio. La fontaine est située juste en face du belvédère de la reine Anne, construction renaissance du milieu du XVIe siècle que Ferdinand Ier a dédié à son épouse Anne de Jaglon. Le jardin est orné de plusieurs plastiques baroques, dont l'allégorie de la nuit de Matthias Bernhard Braun et Hercule de Jan Jiří Bendl. La cour du Lion, refermant le jardin royal du côté nord-ouest, doit son nom à un jardin zoologique fondé par Rodolphe II. Aujourd'hui, la cour du Lion, Lvivdvor, est un restaurant romantique. Des châtaigniers, des tilleuls et des hêtres, dont certains sont vieux de 300 ans, agrémentent le jardin royal. Parmi les plantes et arbustes d'ornement les plus admirés sont les magnolias avec leurs fleurs solitaires et très décoratives. Dans le passé, ce jardin était l'un des premiers en Europe centrale où poussaient des tulipes, ainsi que l'observe František Karlec.
Ferdinand Ier, fondateur du jardin, est un passionné de botanique. Et son ambassadeur auprès du sultan turc ramène à Prague plusieurs bulbes de tulipes. Plantés dans le jardin du château, les premières tulipes y sortent au printemps 1554. Tout le monde en tombe fou et la tulipe est à l'époque considérée comme la 8e merveille du monde. Au fur et à mesure, la tulipe se répand dans d'autres jardins royaux et une vague de tulipomanie s'empare au XVIIe siècle de la Hollande.
Sur le versant sud du jardin royal, on tombe sur une réalisation très contemporaine, la nouvelle orangerie, construite à l'emplacement de celle de 1590, détruite par les troupes suédoises durant la guerre de 30 ans. La construction en mêlant l'acier et le verre a été conçue en 2002 par l'architecte tchèque installé à Londres, Eva Jiříčná. La forme en serre accueille trois espaces pour autant de zones climatiques différentes. Les visiteurs y trouve entre autres 17 variétés de citrus, dont un agrume aromatique, le citrus medica, qui est une variété de cédra, surnommée la main de Bouddha, en raison de sa forme. Ses fleurs blanches ou pourpres se développent en des grappes très odorantes. Le jardin royal est devenu accessible au public en 1990 grâce à Václav Havel. Dès son arrivée au château, Václav Havel a ouvert en grand les portes de l'ensemble du complexe du château, jusqu'alors territoire fermé. Ainsi, il a décidé de l'ouverture du jardin et de la suppression des fortifications autour d'un pavillon au milieu du parc qui était habité depuis les années 1950 par les chefs d'État. Au Moyen-Âge, un vignoble s'étendait là où se trouve aujourd'hui le jardin royal. La culture de la vigne est de tradition très ancienne au château de Prague. C'est ce que note František Karlec.
Selon la légende, les vignes auraient été plantées au château au milieu du Xe siècle par Saint Venceslas, patron des Tchèques, et servaient à la production de vin de Metz pour les couvents chrétiens de Prague. Une vigne située en dessous du vieil escalier du château porte le nom de Saint Venceslas et effectivement la plus vieille vigne en Bohême. Or, officiellement, la culture de la vigne commence au XIVe siècle sous le règne de Charles IV. Ce dernier publie en 1358 un décret ordonnant de cultiver la vigne sur les terrains libres, y compris ceux du château de Prague. Au départ, les cépages avaient été importés de Bourgogne et du Rhénanie. La production actuelle est basée sur la variété qui s'appelle Hibernal. Il s'agit d'un cépage blanc qui est cultivé dans les vignes rénovées du château de Prague depuis les années 1990.
La fête des vendanges a lieu traditionnellement à la mi-septembre. D'autres festivités organisées au mois de septembre au château de Prague sont liées à la fête nationale célébrée le 28 septembre, jour de l'État tchèque de Saint-Venceslas. František Karlec précise quelles seront les manifestations à l'honneur du saint patron des Tchèques.
Saint-Venceslas,
patron du pays dont les reliques sont abritées au château de Prague, dans la cathédrale Saint-Guy, sera commémoré d'une manière solennelle et digne. La veille de la fête, un concert sera donné dans la cathédrale et le lendemain, une journée porte ouverte sera organisée au château de Prague qui rendra accessibles des salles représentatives habituellement fermées au public. À cette occasion, on exposera pour la première fois, après une restauration complète, l'armure de Saint-Venceslas, comprenant l'épée, le casque et la chemise de
maille.
Chaque année, on organise au château de Prague plus d'une dizaine d'expositions. L'exposition permanente intitulée « L'histoire du château de Prague » familiarise le visiteur avec l'histoire millénaire de l'édifice. La fondation d'une forteresse à cet emplacement, probablement autour de l'an 880, la construction de la cathédrale Saint-Guy commencée en 1344, les vastes remaniements réalisés au XVIIIe siècle par l'architecte de Marie-Thérèse, Niccolò Pacassi, jusqu'à l'achèvement de la construction de deux tours de la cathédrale en 1929. L'exposition est complétée d'un concours appelant un événement qui s'est déroulé dans les locaux du château il y a tout juste 200 ans. On écoute Václav Beranek, responsable de la culture au château.
C'est l'un des moments clés où le château de Prague s'est retrouvé au centre de l'attention des puissances européennes. En 1813, le tsar russe Alexandre Ier, l'empereur autrichien François Ier et le roi de Prusse Frédéric Guillaume III se sont rencontrés ici pour négocier une stratégie commune face à Napoléon avant la bataille décisive de Leipzig, appelée Bataille des Nations, qui a définitivement scellé le sort des guerres napoléoniennes.
Une nouvelle exposition permanente installée dans la chapelle Sainte-Croix présente le trésor de la cathédrale Saint-Guy. Jusqu'au 20 septembre se tient dans la salle du manège une grande exposition consacrée à Marilyn Monroe. Quatre nouvelles expositions seront inaugurées d'ici à la fin de l'année.
Le 19 septembre, c'est l'inauguration au Belvédère de la Rhénane d'une exposition intitulée Stanislav Jebenský à Wart 2013 qui rend hommage à l'artiste verrier décédé en 2002 et dont les œuvres ont été exposées en 1958 à Bruxelles, puis encore à l'expo de Montréal et à celui d'Osaka et qui nous a laissé entre autres des vitraux monumentaux à la cathédrale Saint-Guy. Le 23 septembre, le couvent Saint-Georges accueillera un festival d'architecture présentant les monuments de l'UNESCO et l'architecture historique et moderne d'une quarantaine de pays du monde. La salle des écuries impériales abritera une exposition d'art français dans les collections des châteaux tchèques.
Národním památkovým ústavem pořádáme výstavu francouzského umění ve sbírkách českých hradů a zámků.
Plus d'un 1 200 000 visiteurs payants se sont rendus l'an dernier au château de Prague, qui est le monument le plus visité à l'échelle du pays, l'un des premiers à avoir été inscrit en 1992 au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO.
C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous sur notre site radio.cz où vous pourrez retrouver toutes nos émissions. À bientôt à l'écoute de Radio Prague. Ahoy!